Aventure merveilleuse et touchante du prince Chenvis et de sa jeune sœur, de Léon Gosselin. Ce beau château de marbre, qui se déploie dans ses proportions colossales, sous un ciel chaud et azuré, et qui s'élève majestueusement au milieu d'un lac tranquille, est la résidence du prince Orfano Orfana. Les 12 gradins au sommet desquels il apparaît sont couverts de cyprès toujours verts, de citronniers et d'orangers couleur d'or, de pins et de peupliers. Le dernier de tous les gradins est planté de rosiers de Messine qui répandent au loin, quand le vent les agite le soir, une odeur vivifiante et suave. Bâti sur l'une des îles Borromées par les ancêtres du prince Orfano Orfana, qui avaient été autrefois les plus puissants seigneurs du Piémont, ce château fut surnommé, à cause de sa rare magnificence, la perle du lac Majeur. Vous savez que le lac Majeur est à l'entrée de l'Italie occidentale, dans les états du roi de Sardaigne, au centre d'une fertile et riante plaine. On l'aperçoit de l'autre côté des Alpes, immédiatement après avoir quitté les frontières de la Savoie. Les appartements vastes et nombreux de ce château sans égal répondaient à sa beauté extérieure. Rien ne pourrait se comparer à la richesse de ses tapis brodés en Perse, à l'élégance de ses meubles en bois des Indes, à l'éclat et à la variété infinie de ses dorures. Les tableaux qu'il ornait étaient dus aux meilleurs peintres de l'Italie. Enfin, il était si remarquable que le roi Victor Emmanuel de Savoie dit un jour à l'un de ses courtisans « En vérité, si je n'étais roi de Sardaigne, je voudrais être seigneur du château Orfano Orfana. » Un pareil souhait, formé par un souverain justement célèbre dans l'histoire, aurait pu nous dispenser de tout autre éloge. Le maître de ce splendide château, le prince Orfano Orfana, n'avait pas seulement le bonheur de joindre à une grande fortune un pouvoir fort étendu sur ses vassaux, il jouissait encore du bonheur mille fois plus doux de posséder une femme digne de lui et deux enfants charmants. Le premier, l'aîné, reçut en naissant le nom de Léopold Léopoldini. La jeune fille s'appelait Olympe comme sa mère. On vous dira bientôt à quelle occasion Léopold Léopoldini fut décoré du surnom bizarre de prince Chenvis, surnom qu'il tint à l'honneur de porter et que nous lui avons religieusement conservé dans cette histoire dont il est le héros. Olympe avait 7 ans. Elle était rose et blonde, vive, pimpante, gracieuse, mignonne, montrant ses blanches petites dents de souris quand elle riait, et elle riait toujours. Elle riait comme elle respirait. Sur son front développé et dessiné en diadème, dans ses yeux agités et bleus comme les eaux pures du lac Majeur, on lisait la finesse, l'esprit, la gaieté, mais aussi, car il faut faire d'elle un portrait exact, la fierté dédaigneuse de sa race. Ses lèvres pincées exprimaient le mépris, pour peu qu'on blessât, même involontairement, son amour-propre. Quand elle cessait d'être une bonne petite fille, elle prenait aussitôt des airs de reine. Simple avec ses égales, elle affectait les manières superbes avec les petites villageoises qu'elle rencontrait sur son chemin, quoique celles-ci ne manquassent jamais de lui offrir des fleurs et de lui tirer leurs plus belles révérences. L'âge devait exagérer ses défauts si une bonne éducation donnée à temps et avec prudence ne venait faire triompher ses heureuses qualités. Son frère, Léopold Léopoldini, mais que nous appellerons le prince Chenvis, était plus âgé qu'elle d'un an. Il était par conséquent dans sa 8e année. Figurez-vous un gentil garçon, vêtu d'un élégant habit de velours bleu tendre, comme en portaient alors les marquis et les personnes de cour, d'une fine culotte de satin chamois, touffue de rubans aux genoux, caressant de son menton, frais comme une pomme d'api, du linge plissé et brodé divinement, portant l'épée au côté, une épée d'acier les jours ordinaires, une épée de nacre et d'or les jours de fête. Il ressemblait beaucoup à sa sœur. Il était blond, d'une blancheur charmante, et finement coloré comme elle. Il possédait sa gentillesse, sa grâce, sa pétulance et son enjouement. Mais là s'arrêtait l'analogie. Le petit prince Chenvis montrait de la dignité, autant du moins qu'on peut en avoir à son âge, et non de la morgue, quand il se trouvait en compagnie des enfants de son rang. Et il se conduisait avec une bonté vraie, simple, toute naturelle, lorsque le hasard le mettait en rapport avec les fils des bateliers du lac Majeur et ceux des jardiniers et des vignerons de la vallée. Aussi l'aimait-il beaucoup. Cette bonté du petit prince Chenvis ne se bornait pas uniquement à ses semblables. Elle s'étendait, par l'effet de son caractère généreux, aux êtres que l'homme n'a pas l'habitude, et c'est là une grande faute, quand ce n'est pas un crime, de traiter avec douceur. Le prince Shenviz ne comprenait pas qu'on fît du mal aux animaux, qui sont comme nous l'œuvre d'un créateur intelligent, juste et bon, qu'on traitât sans pitié le chien qui garde le troupeau ou défend la ferme, le cheval qui traîne péniblement la voiture, l'âne patient et docile qui porte au marché le produit de nos champs, le chat chargé d'empêcher les souris de dévorer la moisson, l'oiseau qui égaye par son chant la solitude de la maison. Il se disait avec un bon sens parfait que puisque l'homme s'est donné le droit de commander aux animaux, de leur ravir leur liberté, il s'est imposé aussi le devoir de les abriter, de les nourrir, et de remplacer à quelque degré le Créateur qui ne les laisse manquer de rien dans leur état d'indépendance. Comme le château Orfano-Orfana était situé sur les frontières de l'Italie, il était constamment visité en passant par ses troupes de montreurs de curiosités, de comédiens ambulants ou haillons pittoresques, de saltimbanques, venus de Bergame et de Milan pour aller chercher fortune en France. Ces bohémiens basanés et spirituels ne recevaient pas toujours un accueil royal de la part des domestiques. Mais s'ils avaient le bonheur d'être aperçus par le petit prince Shenviz, ils évitaient les affronts du balai et les coups de fourche. Ils les laissaient entrer et ils prenaient un plaisir très vif à leurs exercices. Il aimait surtout à voir les tours qu'ils enseignent aux animaux dont l'adresse les fait vivre. Il cherchait à savoir comment ils obtiennent d'un chien qu'ils jouent aux cartes ou aux dominos, d'un singe qu'ils valsent en mesure au son de la musique, d'un oiseau qu'il fasse le mort. Pour quelques pièces de menue monnaie, il apprenait d'eux ces secrets qui ne sont après tout que l'art de tirer parti, à l'aide de beaucoup de patience, de l'instinct des animaux, instinct perfectible à l'infini. Il augmentait en lui de plus en plus l'affection raisonnée qu'il leur portait par la vue de ces exercices pleins d'utiles enseignements. Croirait-on qu'on se moquait au château de cette généreuse sollicitude du prince Shenviz pour les animaux? Son père et sa mère, qui étaient bons, ne l'en blâmaient pas, mais les femmes de chambre, race moqueuse, les valets et les domestiques, le raillaient sans pitié, et se faisaient un malin plaisir de tourmenter ses protégés, afin de le tourmenter lui-même. Ils avaient toujours un prétexte pour oublier de donner du foin aux chevaux, du son à l'âne, de mettre du Shenviz dans la volière. C'est dans le but de rendre tout à fait ridicule le bon petit prince Léopold Léopoldini qu'il l'avait surnommé, faisant allusion aux soins de toutes sortes qu'il avait pour les bêtes, le prince Shenviz, nom, comme vous le savez, d'une grosse graine dont se nourrissent beaucoup d'oiseaux. Telle est l'origine, fort simple et fort claire, et nullement déshonorante, du surnom qu'il avait reçu. Le plus méchant parmi ses domestiques railleurs était un valet de pied, nommé Roll, créature basse et cruelle. Il appartenait aux montagnes du Tyrol, d'où viennent la plupart des domestiques qu'on emploie en Italie, et particulièrement dans les états du Piémont. Roll, comme s'il eût porté son cœur sur son visage, était d'une laideur abominable. Il cachait la moitié de son visage refrogné sous une chevelure épaisse, inculte et rouge. Son nez, qui se relevait ignoblement, s'enfonçait en s'aplatissant entre ses deux yeux, lesquels étaient d'une nuance verte, picoté circulairement de points noirs, ainsi que les ont les couleuvres. Sa bouche, grande et courbée en demi-lune comme l'ouverture d'un four, laissait voir six dents de sanglier. Des milliers de taches de rousseur tigraient la peau de son visage, qui ressemblait par ses inégalités, son teint et une certaine mousse fauve, qui lui tenait lieu de barbe, à une pêche de l'arrière-saison, boursouflée par la pluie. La grosseur informe de son corps le faisait paraître petit. Les excès lui avaient donné de l'embonpoint à défaut de santé. Il prenait sa brutalité pour de la force et sa force pour du courage. Roll n'était jamais si heureux que lorsqu'il pouvait briser sa cravache sur le dos d'un cheval, casser son épais bâton de cornouiller sur la tête du pauvre âne ou allonger sournoisement un coup de pied à Tournebroche, le fidèle caniche du château. Aussi ces pauvres bêtes, dans leur instinct, cherchaient-elles à l'éviter, ou bien elles s'irritaient, elles se hérissaient de colère quand il leur était impossible d'échapper à ses coups. Il était leur bourreau. « C'est pour le bien du service, monseigneur, répondait-il au prince Orfano Orfana, quand celui-ci, sur les prières de son fils le prince Shenviz, reprochait à Roll d'exercer de mauvais traitements sur les animaux. Et les tortures recommençaient. Le petit prince, qui avait cru rencontrer dans l'âme de sa sœur Olympe une pitié sollicitée en vain chez les autres, lui dit un jour. Vous ne savez pas, ma sœur, j'ai trouvé émeraude et topaz presque morts de faim, chers pauvres petits oiseaux. Et Olympe avait répondu à son frère. Eh mon Dieu, les serins de Canaries ne sont pas si rares en Italie pour qu'on ne puisse remplacer émeraude et topaz sur lesquels vous vous apitoyez tant. Ce n'est pas tout, ma sœur. Auriez-vous à m'apprendre quelque autre malheur plus grand encore? Demanda Olympe d'un ton ironique. Le prince Chenlis ajouta. Zug, ce singe qui nous amuse tant, a été aussi la victime de Roll. Il lui a attaché l'autre soir une fusée à la queue, puis il a mis le feu à la fusée. Zug, qui allait se cognant partout dans sa terreur, a presque été dévoré par les flammes. Je viens de le voir. Le pauvre animal fait pitié. En poussant de petits cris et des gémissements, il m'a montré ses mains calcinées. Il vous aurait attendri, touché, ému.
Quand ce vilain singe mourrait?
Que dites-vous là, ma sœur? Mais Zug vous divertit, vous charme par ses gentillesses, ses malices, ses bonds, ses grimaces et ses mille espiègleries. Ne doit-on rien à ceux qui, depuis des années, mettent leur esprit au service de notre oisiveté? Ne voulez-vous pas que je prie papa d'envoyer chercher le médecin pour soigner notre singe?
Pourquoi non?
D'abord, le médecin ne viendrait pas.
Il aurait tort, ma sœur.
Moi-même, d'ailleurs, j'ai déjà soigné Zug. J'ai délicatement enveloppé sa patte dans un linge.
Oh, quelle folie, quelle folie!
Croyez-vous, Olympe, que ce ne soit pas une folie au moins aussi grande, celle de coucher une poupée dans un lit, de la bercer pendant des heures entières, de s'imaginer qu'elle est malade et de veiller auprès d'elle? Devinant sans peine que son frère se moquait d'elle, Olympe cessa tout à coup de lui répondre. De son côté, le prince Chenvis comprit qu'il n'avait rien de plus sage à faire que de concentrer en lui-même sa bonté, sa sollicitude et sa compassion pour les bêtes. Construit sur le modèle des châteaux royaux, celui du prince Orfano Orfana possédait une ménagerie et renfermait une volière pleine d'oiseaux étrangers. Rien, enfin, de ce qui constitue un luxe de souverain ne manquait à cette résidence, qui n'avait malheureusement pas que des admirateurs. Elle avait aussi ses envieux. Beaucoup de seigneurs prétendaient qu'un roi seul pouvait se permettre d'être logé si somptueusement. Ils accusaient le prince Orfano Orfana de vouloir éclipser la cour de Turin par son train de maison, le nombre de ses domestiques et les richesses de son château. Ces médisances furent portées et répandues à la cour où elles trouvèrent de l'écho. Elles allèrent jusqu'aux oreilles du roi, qui eut la faiblesse d'y croire et le tort de s'en préoccuper. Dès ce moment, la faveur du prince Orfano Orfana diminua. Mais ainsi que cela arrive toujours en pareil cas, il fut le dernier à apprendre sa disgrâce qu'il ne devait connaître que d'une manière foudroyante. En attendant que nous connaissions aussi les effets de cette disgrâce, dressons une courte mais indispensable liste des animaux sur lesquels s'exerçait la bonté du petit prince Chenvis, bonté si durement mise à l'épreuve. Il existe une intime, une intéressante liaison entre l'histoire du prince Orfano Orfana, que de faux amis trahissent, et l'histoire de son fils qui n'abandonne pas ceux qu'il protège. À vrai dire, il aimait tous les animaux élevés dans la propriété, il avait soin de tous. Des beaux cygnes satinés nageant dans les bassins de porphyre du château, comme des jolis petits poulets de Barbarie, des oiseaux d'Asie et d'Amérique, au plumage d'or moulu, à l'œil de grenat, aussi bien que des pintades bariolées du Sénégal. Seulement, il avait besoin de veiller de plus près sur les animaux qui, n'ayant pas une valeur très grande comme prix d'achat aux yeux sordides des domestiques, étaient plus exposés à souffrir de leurs mauvais traitements. Nous allons nommer ceci en indiquant quelques-unes des tortures que leur faisait endurer l'honnête Roll. C'était d'abord le chien du château, excellent caniche qui n'était pas précisément beau. Et comment l'aurait-il été, toujours tourmenté, battu, traîné par les oreilles, indignement secoué par le tyrolien? Mais qui était fidèle, de bonne guette, ne dormant jamais que d'un œil, et intelligent au point de deviner la pensée du petit prince Chenvis au moindre signe qui la trahissait. Ce chien ne s'appelait ni César, ni Médor, mais très vulgairement Tournebroche. À cette époque, les chiens étaient employés à faire mouvoir le pal de la broche à la scie d'une large roue dans laquelle on les plaçait. L'instrument fort simple dont on se sert à peu près partout aujourd'hui pour retirer les viandes n'existait pas encore. Jugez si notre caniche était bien nommé et s'il méritait quelques égards. Les égards qu'avait pour lui Roll, le Tyrolien, étaient ceux-ci. Quand Tournebroche avait tourné la roue de la broche, dur exercice, pendant 5 ou 6 heures, qu'il haletait de fatigue, qu'il mourait de faim, qu'il tirait la langue de soif, Roll prenait un bon morceau de viande rôtie, et rôti grâce à l'activité de Tournebroche, et il le plaçait dans la roue d'où il avait eu soin auparavant de faire sortir le chien. Puis il mettait de nouveau la roue en mouvement, afin que Tournebroche, à jeun, affamé, désespéré, vit passer et repasser sans cesse, et ne pouvant jamais l'atteindre, le savoureux morceau de viande. Après avoir tourmenté ainsi pendant toute une soirée l'infortuné Tournebroche, il lui jetait un crouton de pain dur, et il laissait le morceau de viande rôtie suspendu en l'air dans la roue. Venaient ensuite les deux serins de canaris, l'un appelé Émeraude, parce qu'il était ouvert, l'autre topaze, parce que son plumage était jaune. Comme il gazouillait, comme il modulait de jolies chansons, tant qu'un rayon de soleil traversait leur cage et se jouait avec l'eau de leur petit godet de cristal. La joie du petit prince était de leur verser du millet, et celle de Roll, dès que le prince n'était plus là, de remplacer le millet par du sable. Et les malheureux serins, que devenaient-ils? C'est affreux à penser. Quant au chat de la maison, très aimé aussi du prince Chenvis, il avait sa large part des vexations et des tortures administrées par le perfide ennemi des animaux. Il s'appelait Coco. C'était un angora de la plus belle espèce, noir comme la nuit et soyeusement velu comme un ours. Son air rébarbatif, ses yeux jaunes safran coupés par des filets noirs, pleins tour à tour de finesse et de mélancolie orientale, ses triples moustaches de grenadier, droites, terribles et pourtant vénérables, ne l'empêchaient pas d'avoir un caractère sociable et des mœurs fort douces. C'était un chat du monde. Lui et Tournebroche donnaient un démenti au proverbe « se haïr comme chien et chat ». Ils s'aimaient beaucoup, au contraire, jouaient ensemble sous la table, et l'hiver, on voyait très souvent Coco enroulé et endormi sur le ventre chaud et bien fourré de Tournebroche. On n'imaginerait jamais à quelle invention diabolique avait eu recours le persécuteur Roll pour martyriser l'angora. C'était à n'y pas croire. Il faisait chauffer les pincettes et les appliquait sous les pattes de Coco, qui, selon le degré de chaleur, miaulait plus ou moins fort. L'ingénieux tyran appelait cela à enseigner la musique au chat. Et en effet, des divers miaulements de Coco résultaient des espèces d'air qui auraient fait rire si l'on avait su par quels moyens ils étaient obtenus. Très varié dans ses cruautés, Roll pratiquait un châtiment singulier sur le singe, sur Zug, dont le prince Chenvis s'était fait si inutilement le protecteur auprès de sa sœur Olympe. Il perçait alors de plusieurs trous de grosses coquilles de noix, qu'il posait ensuite à une certaine hauteur sur un tas de blé de Turquie, aliment dont Zug était très friand. Pour s'emparer des grains de blé, le singe fourrait avidement ses doigts nerveux dans les trous faits à l'écorce de la noix, et quand il tenait les grains, il fermait invinciblement la main comme c'est l'habitude chez ceux de son espèce tenace, et il la portait à sa bouche. Mais impossible d'y faire arriver les grains de blé de Turquie, lesquels étaient un obstacle. Il eût fallu premièrement lâcher les grains, puis lâcher les coquilles de noix, et reprendre ensuite les grains de blé, calcul très simple mais au-dessus de la portée d'esprit des singes. Et Roll le savait bien. Pris à ce piège, Zug courait parfois tout un jour à travers le parc, grimpait aux arbres, courait sur la crête des murs avec ses glissantes coquilles de noix aux mains sans pouvoir se résoudre à les abandonner, de peur d'abandonner aussi les grains de blé de Turquie qu'il ne parvenait jamais à croquer. Avouez qu'un pareil homme était une espèce de Néron. Néron, on vous l'a appris sans doute, était un empereur romain qui faisait aux hommes le mal que Roll faisait aux bêtes. Son nom exécré du monde entier restait comme une sanglante injure. L'âne, autre victime de ce misérable, n'avait pour se défendre que la dureté de sa peau, que de bâtons noueux avaient été rompus sur lui, et pourtant c'était le plus gentil, le plus alerte des ânes. Son poil était gris et lisse comme le bois verni du figuier, gaiement zébré de larges bandes noires. Il allait vite, il allait le vent, l'oreille en l'air, l'œil clair et satisfait, les naseaux en quête de la bonne odeur du trèfle et du sainfoin, quand il coupait la verte prairie, pour porter au marché les fleurs, les œufs et les fruits. Sa résignation était si complète, si inébranlable, si exemplaire, si au-dessus des mauvais traitements, des privations et des coups, que les gens du château et des environs l'avaient tout d'une voix surnommé « philosophe ». Il ne nous reste plus qu'à parler de trois opprimés, de la pie, du perroquet rouge et du pigeon, tous trois haïs, persécutés par celui qu'il est inutile de nommer et qui serait mort tous les trois depuis longtemps sans la pitié du bon petit prince Genvis. La pie avait aussi un surnom comme le chat, le singe et l'âne, et un surnom bien appliqué. Causeuse à l'excès, bavarde comme une vieille portière, on l'appelait Mademoiselle Jacasse. Elle jacassait continuellement en effet, mais le mot qu'elle préférait était celui-ci, un sou, un sou, un sou. En voici la raison. Tous les matins, en s'arrêtant devant la cage de sa pie favorite, le prince Genvis disait « Voilà un sou pour acheter du fromage blanc à Jacasse ». À force d'entendre cette recommandation, la pie avait retenu le mot « sou » que son goût pour le fromage blanc lui faisait répéter sans cesse. Mais qu'avait imaginé Roll pour exaspérer Jacasse? Avec ce sou donné par le prince Genvis, il achetait du tabac pour lui et non du fromage blanc pour l'oiseau. Qu'on accuse encore maintenant les pies d'être voleuses. Roll était pourtant forcé de respecter à quelques égards le perroquet rouge. Comme celui-ci ne quittait presque jamais le salon, il se trouvait un peu à l'abri des méfaits de l'ennemi commun. Il en était quitte pour des jurons et des insultes que lui jetait à la sourdine le méchant domestique afin de l'obliger à se taire. Soyons justes, parfois le perroquet rouge était assourdissant. On entendait glapir pendant des heures entières la même phrase sur le même ton. Et cette phrase était invariablement celle qu'on a l'habitude de prononcer dans les salons. « Donnez-vous la peine d'entrer. Veuillez entrer, je vous prie. Entrez, monsieur. Entrez, madame. Tais-toi, avocat, coquin d'avocat, te tairas-tu ?» Ce titre d'avocat que lui donnait comme une injure le terrible Tyrolien avait fini par lui rester. Donc le perroquet rouge s'appelait avocat, comme la pie Jacasse. Mais si Roll épargnait un tant soit peu le perroquet, il se rattrapait avec usure sur le plus beau pigeon de la volière, celui qui venait se poser familièrement sur l'épaule du prince Genvis, manger dans sa main, ou voler sur sa tête en étalant au soleil l'écrin d'un cou diapré des plus riches couleurs. Il était si lustré, si beau, si élégant enfin, que le petit prince Genvis, qui avait un nom pour tous ses chers amis, l'appelait poétiquement Auréole. Vous allez frémir. Deux ou trois fois par an, Auréole se montrait sans plume à son cher petit prince. Oui, saignant et déplumé comme s'il allait être mis à la broche. L'auteur de cette abominable action était, à quoi bon le nommer? Il est assez connu. Est-ce que Dieu ne le punira pas? Attendons. Quoiqu'il eût à peu près tout le château contre lui, le petit prince Genvis se dit avec force qu'il ne renoncerait pas pour cela à protéger, à défendre des créatures utiles et bonnes, enfants de Dieu comme nous. Il se mettait par cette courageuse détermination au-dessus de l'indifférence, du ridicule et du mépris d'autrui, noble et loyale énergie qu'il faut avoir quand on est dans la voie de la justice et de la vérité. Comme les nuits sont presque toujours belles en Italie, le prince Orfano Orfana avait l'habitude de réunir le soir toute sa famille sur la terrasse du château, d'où l'on découvrait les deux rives du lac à travers des statues d'albâtre et des lauriers roses. Le gouverneur du prince Genvis et la gouvernante de la jeune Olympe avaient naturellement leur place marquée auprès de leurs élèves à ces causeries intimes. Sans cesse de l'avis du prince Orfano Orfana, quoi qu'il dît, quoi qu'il soutint, quoi qu'il proposât, lui répondant toujours par un mot invariable qui était infailliblement, le gouverneur du jeune prince avait reçu le surnom significatif de monsieur le gouverneur infailliblement. C'était un homme maigre, sec, grand et droit, si maigre et si sec qu'il était presque transparent. Ses longs cheveux gris, ses longs bras d'orang-outan, ses longues jambes, son long cou, ses longues mains lui donnaient l'air d'une araignée colossale. Son costume, entièrement noir, contribuait beaucoup à cette ressemblance. Il n'était ni sot ni ignorant. Il était seulement privé de volonté. Il savait suffisamment pour enseigner, mais on n'exigeait pas qu'il enseignât. À cette époque, déjà loin de nous, les gentilshommes n'étaient pas tenus de briller par l'instruction. L'usage les autorisait à se passer de toutes ces sciences qu'ils ont acquises depuis et dans lesquelles beaucoup d'entre eux se sont fait une grande célébrité. La gouvernante d'Olympe n'était ni moins longue ni moins décharnée que monsieur le gouverneur infailliblement. À eux deux, ils représentaient, on peut le dire, les deux moitiés de quelqu'un. La même docilité servile aux volontés de ses maîtres lui avait fait adopter un mot de soumission qui était à peu de choses près celui du gouverneur. Ce mot était « certainement ». Ainsi, ces deux adverbes marchaient côte à côte, l'un pour faire du jeune prince Chenevis un gentilhomme accompli, l'autre pour faire de la jeune Olympe une princesse achevée. Assis à distance, les domestiques du château prenaient part à ces tranquilles veillées sur la terrasse. Or, un beau soir d'automne, quand le calme du lac Majeur n'était troublé que par le chant national des matelots qui y partaient pour la pêche, le prince Orfano Orfana dit à sa femme, en présence de toutes les personnes du château et des deux enfants, Olympe et Chenevis, « Vous me demandiez, madame, à la dernière veillée, quels étaient mes projets d'avenir sur Olympe et notre cher petit prince Léopold Léopoldini ?»« Oui, mon cher prince, » répondit la princesse. Olympe, poursuivit gravement le prince, fera sa première communion à 14 ans, et à 16 ans nous la marierons avec le fils du duc de Com. C'est une alliance digne de nous, digne d'elle, ajouta la princesse Orfano Orfana. Vous entendez, mademoiselle, dit-elle ensuite en s'adressant à la gouvernante de sa fille. Certainement, madame la princesse, répondit la gouvernante d'Olympe. Je vous fais cette question, poursuivit la princesse, afin de savoir de vous, qui avez l'honneur d'élever mademoiselle Olympe, si à cette époque de sa vie, ma fille connaîtra à fond les 77 manières de saluer la cour de Turin. Certainement, madame la princesse. Si elle saura soulever avec majesté une robe à longue queue traînante. Certainement, madame la princesse. Ouvrir et fermer un vaste éventail. Certainement, madame la princesse. Danser en deux temps et en trois temps le menuet de la reine. Certainement, madame la princesse. Enfin, je désire savoir si elle sera assez instruite pour figurer avec avantage parmi les plus nobles personnes de la cour de Turin, la première cour de l'Italie et du monde. Certainement, madame la princesse. Ayant cessé d'être interrogée par la princesse Orfano Orfana, la gouvernante certainement se tut. À mon tour, je vous demanderai, dit le prince au gouverneur infailliblement, si mon noble fils Léopold Léopoldini pourra, formé par vos leçons, et quand il aura l'âge, entrer dans le régiment des pages de Sa Majesté le roi de Sardaigne. Infailliblement, monseigneur. Portera-t-il l'épée en verrou avec toute la grâce d'un parfait cavalier? Infailliblement, monseigneur. Saura-t-il sourire avec finesse et discrétion aux moindres paroles que daignera lui dire le souverain? Infailliblement, monseigneur. Saura-t-il ramasser le gant d'une princesse, tourner en compliment à tout propos, jouer à la pomme? Infailliblement, monsieur le prince. Saura-t-il... Cette nouvelle question du prince Orfano Orfana resta suspendue à ses lèvres. Le prince Chenevis avait poussé un grand cri, et il avait fait suivre ce cri violent de ces mots. « Ah, le misérable, le monstre, l'inhumain !» Chacun regarda avec un profond étonnement la figure pâle et bouleversée du jeune prince Chenevis et chercha à deviner la cause de cette indignation qui ne cessait pas, car il continuait à dire en levant les yeux au ciel « Est-ce que Dieu ne nous vengera pas? Oh mon Dieu, ils sont perdus !»« Mais qu'avez-vous, mon fils ?» lui demandait sa mère en le pressant avec effroi contre son cœur. « Qu'y a-t-il? Mais qu'y a-t-il ? » lui disait son père. « Perdriez-vous la raison ?»« Ne voyez-vous pas ?» répondit enfin le prince Chenevis, en montrant d'un doigt tremblant un point dans l'espace, une tache qui grossissait en descendant du ciel. Son cœur avait vu et deviné avant ses yeux ce qu'était cette tache. Toutes les personnes qui se trouvaient sur la terrasse avaient dirigé leur regard en l'air, mais il leur fallut quelques minutes d'observation soutenue avant de connaître la cause de l'émotion extraordinaire et de la douleur du prince Chenevis. Ils la connaissaient enfin. La pie du château emportait à travers l'espace, en se débattant, le gros perroquet rouge, et celui-ci traînait à sa patte les deux serins de canaries, émeraudes et topazes, ainsi liés l'un à l'autre par un cordon dont on voyait flotter les bouts. Les quatre oiseaux roulaient, culbutaient, tournoyaient effroyablement au-dessus de la tête de ceux qui assistaient à cette scène. Des cris étouffés par la douleur commençaient à se faire entendre. La pie et le perroquet semblaient rendre leur dernier soupir. Ils s'étranglaient l'un l'autre en s'enchevêtrant dans le cordon qui les enchaînait et les serrait de plus en plus à mesure qu'ils cherchaient à s'en dégager. Les pauvres petits serins de canaris étaient pendus convulsivement par les pieds. Personne ne mettait en doute l'auteur de ce cruel amusement. Le nom de Roll, le Tyrolien, était dans toutes les bouches. Enfin, après avoir culbuté, s'être heurté dans l'espace pendant plus d'un quart d'heure, le perroquet rouge, la pie et les deux serins de canaris tombèrent lourdement sur la terrasse. Effroyable chute! Aussitôt le petit prince Chenvis courut à eux et avec ses doigts, avec ses dents, il écarta, rompit le lien qui étranglait les malheureux oiseaux. Il était temps. La pauvre pie, la bonne jacasse, pouvait à peine murmurer son dicton favori « un sou, un sou » et le perroquet répétait en râlant d'une voix rauque « Donnez-vous la peine d'entrer, entrez monsieur, entrez madame ». Quant aux deux petits serins de canaris, ils étaient froids et immobiles, comme s'ils eussent été morts. Ils n'étaient pas morts. Ce dont s'assura le prince Chenvis après les avoir échauffés dans ses mains avec son haleine. Ils remuèrent un peu les pattes et les ailes, bien peu. Quelle espérance au milieu de quelle douleur! Ce qui augmentait cette douleur en lui, c'était de voir l'indifférence avec laquelle presque toutes les personnes réunies sur la terrasse assistaient à ce triste événement. Son irritation fut telle en ce moment qu'il dit à sa sœur Olympe, assez légère pour ne pas dissimuler un rire déplacé, odieux, « Allez-vous-en, mademoiselle !»« C'est à vous de vous retirer, monsieur mon fils !» s'écria en colère le prince Orfana Orfana. « Retirez-vous ! On ne doit montrer ni un intérêt si excessif envers des animaux, ni tant d'emportement contre une sœur dont le tort n'est pas grave. »«
Certainement, » dit la gouvernante.
« Infailliblement, » ajouta le gouverneur. Confus, blessé dans sa délicatesse et dans sa noble sensibilité, honteux de recevoir de son père, qu'il aimait et respectait beaucoup, une réprimande aussi vive, le petit prince Chenvis se retira en emportant, baigné de ses larmes, les quatre pauvres oiseaux auxquels il avait si miraculeusement sauvé la vie. Il ne se permit que cette réflexion en rencontrant sur le perron l'infâme Roll, l'auteur de cette cruelle plaisanterie. « Je serai homme un jour. » Le prince Orfano Orfana, voulant faire sentir fortement à son fils combien il était blessé de son procédé envers sa jeune sœur Olympe, lui donna, quelques jours après la scène de la veillée, une preuve de son vif mécontentement. Il tenait à ce que le prince Chenvis se souvînt toute sa vie de cette vérité si importante qu'il faut apporter de la modération même dans les actions les plus justes. Il avait conservé l'habitude de réunir à sa table, certains jours d'automne, les principaux seigneurs des environs, pour qu'ils célébrassent avec lui l'anniversaire de la naissance de sa femme. Ce repas était si copieux, si abondant en toutes sortes de mets délicats, qu'on en parlait longtemps à l'avance dans le pays. Il faisait événement. En un mot, le prince Orfano Orfana n'épargnait rien pour que la fête justifiât la haute réputation qui la précédait. C'était un grand jour, et ce jour était venu. Sur toute la surface du lac, on apercevait des barques élégantes, inclinées sous des voiles bleues et roses, se dirigeant vers l'île fortunée où étaient attendus les heureux voyageurs qu'elles portaient. Elles portaient aussi des musiciens dont les chants se croisaient harmonieusement et de jeunes garçons qui jetaient des fleurs sur le sillage. À chaque instant, quelques-unes de ces jolies barques abordaient dans l'île et les nobles invités du prince Orfano Orfana foulait les gazons moelleux et les sables dorés de son hospitalière villa. Le gouverneur infailliblement fut celui qu'on chargea de signifier au prince Chenvis qu'il ne paraîtrait point à cette brillante fête. Telle était la sévère punition dont son père le frappait. Dire que le prince Chenvis reçut froidement cette triste nouvelle, ce serait trahir la vérité. Il chérissait trop son père et sa mère, il était trop jaloux de conserver leur affection, de mériter leur estime, pour accepter avec indifférence un pareil châtiment. Aussi ne cacha-t-il à son gouverneur ni son découragement, ni sa tristesse, ni ses larmes. Pourtant, lorsqu'il remontait jusqu'à la cause qu'il avait involontairement poussée à manquer de respect à sa sœur Olympe, il se trouvait plus malheureux que coupable. Il se repentait sans doute de l'avoir offensé, d'avoir irrité son père, mais il se disait que sa sœur n'aurait pas dû non plus afficher une dureté si froide, si ironique, à l'égard de pauvres animaux sur le point d'expirer. Si son esprit s'humiliait,
sa conscience ne lui reprochait rien. Pour se montrer impartial envers tout le monde, il faut dire que la princesse Orfana Orfana supplia son époux de ne pas pousser si loin la sévérité envers leur fils, et qu'Olympe, sincèrement attendri, se jeta trois fois aux pieds de son père pour obtenir le pardon de son frère malheureux. Le prince Orfana Orfana fut inflexible, la justice paternelle devait avoir son cours. Les pères sont comme les rois, ils voudraient, mais ils ne peuvent pas toujours pardonner. Mais écoutons, la grosse cloche du château sonne l'heure du festin. Le petit prince Genevis s'assied tristement sur une banquette de la terrasse. De cette place, il aperçoit la longue et fastueuse table du banquet. Son cœur bat, ses yeux se mouillent de larmes. Il voit passer triomphalement des nuées de domestiques chargés de mets délicieux. Il n'avait pas mangé depuis la veille. Les uns portent des potages succulents qui embaument l'espace. Le petit prince regarde et soupire. Les autres portent des pièces de mouton rôti et dorées par un feu doux. Il regarde encore et soupire. Ceux-ci traversent la terrasse avec des pyramides odorantes de gibier truffé. Des cailles, des grives, des bécasses se prélassent sur un lit de feuilles de vigne au fond de vastes plats d'argent. Le petit prince n'ose plus regarder, mais ses soupirs redoublent. Cela accourt avec des hurs de sangliers ornés de persil, de menthe, brodés artistement de clous de girofle. Il y en avait qui portaient de la crème blanche et rose dans des bols de porcelaine, et le prince adorait la crème blanche et rose. D'autres circulaient en soulevant des monuments formés d'amandes, de pistaches, de noisettes et de citrons d'Amérique. On en voyait encore qui balançaient sur leurs mains prudentes des fruits glacés dont la forme et l'éclat n'avaient pas été altérés par l'art du confiseur. On ne peut dire si le prince Genevis aurait supporté jusqu'au bout ce supplice de Tantale. Un événement vint faire diversion à ses angoisses. Et portant ses yeux abattus sur un autre point de la terrasse, il aperçut Tournebroche, Jacasse, Topaz et Émeraude qui semblaient solliciter son attention. Était-ce une erreur, une illusion? Il alla d'abord vers la loge de Tournebroche et que vit-il? L'écuelle de Tournebroche était vide, sèche comme le bois dont elle était faite. Depuis la veille, le chien n'avait donc pas mangé. Quant à la cage de la pie, elle ne contenait pas plus de nourriture que celle des serins de Canaries. En un instant, le petit prince comprit qu'on avait voulu faire partager aux chiens et aux oiseaux la cruelle punition dont on le frappait. Comme lui, il n'avait pas mangé de toute la journée. « Et je me désolais, s'écria-t-il, je me désespérais, je pleurais, et ces pauvres créatures souffrent sans se plaindre. » Les animaux auraient-ils plus de raison que moi? Est-ce donc à eux à me fournir des exemples de résignation? Bien loin de se plaindre à son petit maître, le chien qui était enchaîné allongea le cou tant qu'il put pour lui lécher la main avec de touchants aboiements. La pie, la bonne Jacasse, lui dit de sa plus jolie voix « Un sou, un sou !» Les serins de Canaries battirent joyeusement des ailes lorsqu'il s'approcha de leur cage, et le petit prince Genevis se sentit alors soulagé. Mais après avoir goûté le charme si doux de la résignation, par l'effet de cette leçon qu'il recevait d'être moins intelligent que lui, il se dit « Non, il est impossible que mon père ait étendu jusque sur ces créatures inoffensives un châtiment que j'ai seul mérité. On aura injustement interprété ses ordres. En tout ceci, je reconnais l'esprit vindicatif de Roll. » Dès ce moment, sa détermination fut prise, une grande détermination. La nuit se faisait. Les domestiques ne passaient plus qu'à travers l'obscurité étendue sur la terrasse pour arriver jusqu'à la salle du festin. Le prince Genevis alla fièrement se poster sur leur chemin, et quand Roll vint à passer avec une magnifique assiette de friandises, il tira son épée et lui dit « Ceci pour moi ou ceci pour toi ?» L'épée du prince était appuyée sur le cœur de Roll. Celui-ci, qui était lâche puisqu'il était méchant, n'eut que le temps de livrer à son courageux adversaire les friandises qu'il destinait à d'autres. Le prince Genevis courut aussitôt les distribuer à Tournebroche, à Jacasse, à Topaz et à Émeraude, qui ne firent aucune façon, on peut le croire, pour jouir des fruits de la victoire emportée par leur jeune maître. Ils mangèrent à satiété des brioches, des meringues, des tartes, du gâteau de Savoie, des biscuits à la reine, des gâteaux d'amandes et mille autres délicieuses pâtisseries. Tournebroche était beau à voir. « Mangez toujours !» leur criait le prince Genevis. « Mangez de ceci, mangez de cela, ne vous lassez pas, tout est pour vous seul !» Maintenant, dit le prince Chenuis en mettant son épée dans le fourreau, je n'ai plus faim, je ne souffre plus, j'ai fait une bonne action. Il alla ensuite s'asseoir tranquillement sur la terrasse, en attendant que son gouverneur vînt comme d'usage lui dire d'aller se coucher. Il était dans cette attente lorsqu'il entendit retentir sur les dalles de la terrasse des talons de fer, des sabres et des crosses de mousquet. Le petit prince sort tout à coup de ses réflexions, se lève avec inquiétude, regarde autour de lui. Le château était envahi par des soldats. À peine a-t-il le temps de se rendre compte de ce qui se passe autour de lui, qu'il voit ses hommes armés s'avancer en très grand nombre vers les portes de la salle du banquet et s'emparer de toutes les issues. Bientôt il entend la voix sévère de leur chef qui dit « Prince Orfana, Orfana, vous êtes prisonnier du roi. Suivez-nous, vous et votre épouse, pas de résistance ou vous êtes mort. » Le jeune prince, effrayé de cette injonction, court précipitamment se jeter au milieu des soldats afin de les empêcher de toucher à son père. Mais ceux-ci le repoussent, restent sourds à ses prières, comme indifférents à ses menaces. Le prince Orfana, Orfana et la princesse sont entraînés hors du château, conduits sur les bords du lac Majeur, placés dans une voiture qui les attendait et emportés de toute la vitesse de 4 chevaux. Une moitié des troupes escorte les 2 nobles prisonniers, l'autre moitié demeure au château pour en prendre possession au nom du roi. Ainsi, le prince Orfana, Orfana était non seulement prisonnier, mais tous ses biens étaient confisqués. Les gardes s'établirent partout avec autorité dans le château et s'assirent en maître autour de la table qu'avaient abandonnée les nobles convives dispersés par la frayeur. Quant aux domestiques, valets et serviteurs de toute espèce, au lieu de s'occuper du sort des 2 enfants, ils avaient profité du désordre pour s'enfuir avec le plus d'argenterie et d'objets précieux qu'ils avaient pu emporter. Le gouverneur avait dû infailliblement s'esquiver et la gouvernante très certainement s'être évadée. Olympe, à demi morte de peur, s'était glissée d'effroi à travers les soldats qui ignoraient qu'elle était la fille du prince et elle avait couru se réunir à son frère pour qu'il la protégeât. Cher enfant, que pouvait-il contre 200 hommes grossiers, bardés de fer des pieds à la tête, jurant et maugréant, buvant jusqu'à devenir furieux? Elle et lui, marchant dans l'obscurité, allèrent se cacher au fond du parc où ils passèrent la nuit. Ce n'est que le lendemain qu'ils apprirent d'un petit pâtre de leurs amis que leur père et leur mère avaient été conduits dans une forteresse parce qu'ils étaient accusés d'avoir favorisé des révoltés, offert un refuge à des ennemis du roi, qu'on avait trouvé, prétendait-on, caché dans la propriété Orfana Orfana. Ce n'était pas moins qu'un crime d'État, de haute trahison, puni en tout temps par la confiscation, la dégradation et qui méritait même la mort. Le prince Chenuis et sa sœur s'évanouirent en entendant ce récit, auquel ils ne pouvaient croire pourtant, car quoiqu'enfants, ils appréciaient la loyauté de leur père. Quand ils revinrent à eux, ils entendirent les chants d'ivresse des soldats en train de mettre la propriété au pillage. Ils menaçaient d'incendier les pavillons, les écuries et de saccager le château. Jusqu'à la nuit, ils entendirent ces imprécations, ces rugissements, ces cris de ruine et de dévastation. Ils ne bougèrent pas de l'épais taillis au fond duquel ils s'étaient prudemment réfugiés la veille. Que cette journée leur parut longue. Vers minuit, quand le tumulte fut un instant assoupi, le petit prince, qui s'était livré à de sérieuses réflexions depuis 24 heures, le malheur mûrit si vite, dit tout bas à sa sœur « Ma chère Olympe, suivez-moi, j'ai un projet. » Olympe n'osait sortir de sa cachette, cependant elle obéit à son frère. « Mais où allons-nous » demanda-t-elle. « Suivez-moi. Que deviendrons-nous ? Dieu nous aidera. Aidons-nous d'abord. Mais, mon frère, silence, ma sœur. Les soldats ne sont pas tous endormis. Si l'un d'eux allait nous entendre... »« Vous prenez le chemin du château ?» dit Olympe en tremblant. « Je le sais. Mais c'est là qu'ils sont. Silence, encore une fois, ma sœur, où nous sommes perdus. » Apesantis par l'ivresse, les soldats dormaient pêle-mêle étendus sur les dalles de la terrasse. Les 2 enfants s'avançaient soigneusement à petits pas, touchant à peine la terre de la pointe de leurs pieds, à travers ces corps chargés d'armure, au risque à chaque instant d'éveiller un sauvage hallebardier aux moustaches de tigre ou un dragon plus terrible encore et d'être fait prisonnier. Quelle situation périlleuse! Mais ils marchaient si doucement, si doucement, si doucement. Tout à coup, la voix rauque et avinée d'un de ces soldats couchés par terre retentit. « Qui est là ? » s'écrie-t-il. Les deux enfants s'arrêtent. Ils ne répondent pas, comme leur cœur battait. Le soldat se rendormit aussitôt. Tout danger n'était pas encore passé. « Mais ce projet dont vous m'avez parlé, » demanda tout bas Olympe. « Voici, ma sœur, le moment de l'exécuter. » Et avec une attention, une lenteur, une prudence miraculeuse, le petit prince Genvis, parvenu au bout de la terrasse jonchée de soldats, fit d'abord sortir l'âne de l'écurie. Cela fait, il détacha le chien auquel il imposa silence d'un geste énergique, puis, décrochant la cage des deux serins de canaris et celle de la pie, dans laquelle il glissa le pigeon, il fixa et lia ses deux cages sur le dos de l'âne, qu'il fit descendre à petits pas par un sentier étroit et obscur jusqu'au milieu du parc. Là, il recommanda à sa sœur de l'attendre. Il lui dit qu'il allait revenir. Alors le petit prince Genvis retira ses souliers pour faire moins de bruit en marchant, et il remonta une seconde fois vers le château. Arrivé sur la terrasse, il s'arrêta un instant pour se recueillir. C'est là que recommençait pour lui une tâche des plus difficiles et des plus périlleuses, plus difficiles et plus périlleuses 100 fois que la première. Il fallait qu'il pénétrât dans la grande salle, celle où avait eu lieu le banquet, malgré l'active surveillance de la gigantesque sentinelle qui en gardait la porte. Le prince, avons-nous dit, avait son projet. Un commencement d'exécution avait réussi, restait à couronner l'œuvre. Mais quel péril! Et aussi quelle témérité! Il attendit, pour s'introduire dans la salle, que la sentinelle, dans l'une de ses évolutions, eut le dos tourné à la terrasse. Il profite de cet instant et il court, il vole plutôt à l'endroit où se tenait ordinairement Zug, le singe. Zug dormait profondément. Les soldats l'avaient enivré. Il prend Zug, le jette comme un sac sur ses épaules. Le chat était sous la table. Il prend aussi le chat et le met sous son bras. Il court sans perdre de temps au perroquet, mais le trop expansif oiseau, le malheureux perroquet, en apercevant le petit prince, s'abandonne à sa joie et crie « Entrez, monsieur, entrez, madame !» Le soldat qui fait sentinelle ouvre l'oreille à ce cri, cherche et voit quelqu'un qui s'enfuit dans la direction de la porte. Il est trop tard pour barrer le chemin, mais il arme son mousquet et couche en joue l'ombre qui a glissé près de lui et qui traverse la terrasse. Le coup part, la balle se perd dans l'espace. Déjà, le prince Genvis est près de sa sœur. Déjà, ils ont franchi tous les deux la porte du parc, qu'ils referment sur eux. Enfin, ils sont au bout de la propriété, à ses extrêmes limites, au bout de l'île sur laquelle s'élève le château qu'ils quittent peut-être pour toujours. Ils descendent dans une barque avec tous les animaux, qui, excepté l'âne, n'offrent pas de grandes difficultés d'embarquement. La dégage de la corde qui la retient, et vite, vite, ils la poussent, et les voilà au large. La lune est cachée et le courant est rapide. Tous les soldats, éveillés en sursaut, crient « Aux armes! Aux armes !» Des torches de résine luisent au sommet de l'île et leur clarté rougeâtre se projette au loin sur les eaux. Cette immense lueur d'incendie montre la barque qui emporte les deux enfants du prince Orfano Orfana. Des coups de mousquet sont tirés, mais les balles tombent dans le lac sans avoir assez de force pour atteindre les fugitifs. Le prince Genvis et sa sœur sont déjà hors de portée. Ils s'éloignent de plus en plus, emportant avec eux l'âne, le singe, le chien, les deux serins de canaris, le chat, le perroquet, la pie et le pigeon. Les deux enfants sont sauvés. Et sauvés aussi Philosophe, Zug, Tournebroche, Émeraude, Topaz, Coco, Avocat, Jacasse et Auréole. Nous étions dans l'erreur quand nous supposions que le gouverneur infailliblement avait pris la fuite au moment où les soldats envahissaient le château Orfano Orfana. Ceux-ci, en fouillant le cellier, le trouvèrent caché derrière une rangée de tonneaux, le saisirent par son habit noir, le traîner au grand jour, le conduire au chef pour qu'il décidât de son sort, tout cela fut fait en un instant. Le gouverneur infailliblement tremblait comme la feuille, et il n'était pas moins vert qu'une feuille, tant la peur le décomposait. « Ceci fait admirablement notre affaire, » dit le chef en le voyant. « Faut-il l'écarteler, le pendre ou le brûler ?» demandèrent les soldats. Infailliblement recommanda son âme à Dieu. « Pas encore, » répondit le chef. « Mais en attendant, conduisez-le à la citerne. » L'ordre du chef s'exécuta immédiatement. Les soldats prirent le chemin de la citerne. « Il est nécessaire de rappeler ici un usage de guerre. » Lorsque l'ennemi s'empare d'une citadelle ou d'un château fort, il a soin, par prudence, de faire goûter l'eau des puits ou des citernes aux vaincus, afin de s'assurer qu'ils n'ont pas empoisonné les eaux avant d'abandonner la place. Le gouverneur, infailliblement, fut donc conduit dans une des caves du château, à l'endroit où était creusée la citerne, vaste réservoir d'eau qui servait à alimenter la propriété. « Allons, je devine leur intention, » se dit le gouverneur du prince Genvis pendant les quelques minutes qu'on le laissa seul à la cave. « Ils veulent infailliblement que je goûte les eaux. Ils tiennent à s'assurer que nous n'avons pas répandu du poison dans la citerne. Trop heureux si j'en suis quitte pour cette complaisance, infailliblement un peu forcée. » Il achevait sa réflexion lorsqu'un soldat entra et lui dit le sabre à la main. « Goûte cette eau !»« Oui, mon ami, » répondit le gouverneur en remplissant un verre qu'il vida d'un seul trait, quoique l'eau ne fût pas sa boisson favorite. « C'est bien, » dit le soldat qui sortira en fermant la porte sur le gouverneur. « Qu'attend-il encore de moi ?» pensa le gouverneur, « puisque l'épreuve est faite. Pourquoi me laisser ici ? C'est sans doute par erreur. » Un second soldat paraît. « Goûte cette eau !» s'écrie-t-il en brandissant une lance sur la tête du gouverneur. « Mais j'ai déjà bu. Goûte cette eau, te dis-je » Le gouverneur ne résiste pas à un ordre si poliment exprimé. Il boit un second verre d'eau. « À merveille !» fait le soldat qui s'en va comme le premier, après avoir eu soin de fermer la porte de la cave. « Qu'est-ce à dire ? » murmure le gouverneur. « Celui-ci aussi m'enferme. Quand m'en irai-je donc ?» Un troisième soldat survient armé d'un pistolet, mais mordre impératif. « Goûte cette eau !»« Mais infailliblement, j'étoufferai si cela continue. Veux-tu y goûter ?» Le gouverneur infailliblement avala avec mille grimaces et mille contorsions le troisième verre d'eau. Cette eau était horriblement glacée. Arrive un quatrième, arrive un cinquième, un sixième, arrive un douzième soldat. 12 verres d'eau ont déjà passé par le gosier et clapotent dans l'estomac de l'infortuné gouverneur. Il n'en peut plus, il souffle, son ventre est tendu et rond comme un ballon. Pourtant, il faut qu'il boive encore, il le faut. Toujours ce même commandement gronde à ses oreilles entre des pics de fer, des bâtons rugueux, des épées et des mousquets gorgés de balles. « Goûte cette eau ou bien 1000 morts !» Enfin, au 18e verre, écrasé par cet excès d'eau froide, le gouverneur tombe par terre à la joyeuse et brutale satisfaction des soldats qu'il avait abreuvés. Nous saurons plus tard s'il en mourut. Revenons maintenant aux deux enfants que nous avons laissés voguant sur le lac majeur à la clarté de la lune. Toute la nuit, ils fendirent paisiblement les eaux dans la direction opposée à celle de l'île qu'ils venaient de quitter. Parfois, leurs regards cherchaient au fond de l'horizon le beau château qu'ils avaient cru ne jamais quitter. L'aube commençait à poindre quand ils touchèrent au petit port d'Arona, où ils débarquèrent avec tous leurs animaux, un peu fatigués de la traversée. Dès que le prince Genvis se fut assuré qu'il ne manquait aucun passager, il alla, sans perdre de temps, proposer un pêcheur de lui vendre la barque qui avait mené à bon port l'intéressante colonie. Le pêcheur d'Arona vit un excellent coup de filet à donner. Il offrit 10 écus et le marché fut aussitôt accepté, à la condition pourtant, ajouta le prince Genvis, que le pêcheur lui livrerait les habits grossiers de son fils et de sa fille en échange des siens et de ceux de sa sœur. La condition parut trop avantageuse à l'habitant d'Arona pour qu'il ne se hâta pas d'y souscrire. Tandis qu'il comptait les 10 écus, le prince Genvis et la petite Olympe s'arrêtaient un instant dans la cabane pour endosser les habits rustiques des deux enfants du pêcheur. Ces habits étaient de gros draps de couleur brune, exactement semblables à ceux des petits ramoneurs et des joueuses de vielle. Olympe étouffa bien des soupirs et bien des larmes pendant ce changement de costume si blessant pour sa vanité. Elle rougissait de se voir accoutrée de cette façon-là. Ainsi vêtue, c'est-à-dire méconnaissable, les deux enfants du malheureux prince Orfano Orfana s'acheminèrent vers les Alpes, car ils avaient le projet de passer en France, où, à la faveur de leur déguisement, ils étaient sûrs de n'être ni remarqués ni poursuivis. Comme l'un était jeune et vigoureux, il supporta aisément le fardeau des deux enfants qui avaient placé devant eux les 3 cages, celle des serins de Canaries, celle de la pie où était aussi le pigeon, et celle du perroquet. Le singe se posa en équilibre sur la coupe de l'âne. Le chat noir fut installé derrière la selle, au fond d'un panier garni de paille de maïs, le fidèle tournebroche, tantôt éclaireur, tantôt arrière-garde, accompagnait à pied l'équipage. C'était un groupe charmant, plein de naïveté et de candide confiance. « Mais, mon frère, » dit Olympe quand ils furent sur le chemin d'Arona à Biella, « que ferez-vous de tout cet argent ?»«
Ce que j'en ferai.
Mais ne faut-il pas que nous vivions et que nous fassions vivre nos compagnons ?»«
Je n'y avais pas pensé, mon frère, » répondit Olympe, qui jusqu'ici ignorait les besoins de la vie et ses exigences.
« Vous verrez, ma sœur, que nous n'avons pas trop d'argent avec nous. Mais alors pourquoi se charger de l'existence de tous ces animaux ? Ils nous font vivre à leur tour, quand nous n'aurons plus les moyens de les faire vivre. »«
Vous voulez plaisanter, mon frère. » »«
Olympe, je suis très sérieux en vous parlant ainsi. » »«
Et comment nous font-ils vivre ? » ?»«
Vous le saurez quand nous aurons quitté le Piémont, d'où nous devons nous hâter de sortir. »
Et où est donc la France? Pourrez-vous la trouver?
Elle est derrière ces montagnes qui se pressent et qui s'élèvent devant nous.
Grand Dieu! S'écria Olympe. Il faut que nous montions et que nous redescendions, que nous montions encore et que nous redescendions encore ces hautes montagnes qui touchent le ciel.
Oui, ma sœur, il le faut.
Mais c'est impossible.
Il existe quelques chemins.
Les connaissez-vous, du moins?
Nous les demanderons.
Les voleurs, les brigands, les bêtes féroces?
Dit Olympe avec effroi.
« Et Dieu ?»
répondit vivement le petit prince Chenvis. En causant ainsi de l'avenir, ils arrivèrent à petits pas, à Biella, mais ils attendirent la nuit pour y entrer. Le lendemain, de bonne heure, ils achetèrent, avec une partie de l'argent de la barque, des provisions de voyage pour eux et leurs compagnons. Peu habitués aux divers incidents d'une émigration, ceux-ci montrèrent des dispositions parfois assez turbulentes. Le plus indiscipliné était Zug. Il tenta souvent de s'enfuir et le mauvais exemple gagna Coco, très disposé à imiter Zug. Mais Tournebroche, par ses menaces et ses aboiements, sut les obliger à rentrer dans l'ordre. Lorsque les deux enfants avaient fait deux ou trois lieues, ils s'arrêtaient sous quelque arbre colossal, comme il y en a tant en Italie, sous quelque beau cèdre à l'ombrage épais, aux branches ouvertes en parasol. Ils donnaient alors la liberté à leurs compagnons d'exil, sûrs, grâce à une expérience de plusieurs jours, qu'ils n'en abuseraient pas. Jacquat se posait au sommet de sa cage et causait en véritable pique elle était, criant joyeusement « Un sou, un sou !» L'avocat, perché sur une branche, répétait aussi « Entrez, monsieur, entrez, madame !» Et Zug courait, grimpait, voltigeait de place en place plus lestement qu'un écureuil. Ils croyaient retrouver ces forêts du Nouveau Monde. Topaz et Emeraude jouissaient pareillement de leur liberté. On les lâchait sur le gazon, où ils picotaient avec bonheur des feuilles fraîches, des mousses odorantes, et tous ces riens charmants tombaient du ciel, envolés du calice des fleurs. Vous vous imaginez peut-être que Tournebroche et Coco dormaient sans cesse. Détrompez-vous. Philosophe seul, le brave, l'excellent âne, libre de tout lien, de tout souci, savourait en sultan l'herbe tendre et les plus délicieux chardons du monde. Dès que le jeune prince Chenvis jugeait que sa ménagerie avait suffisamment joui du plaisir de la liberté, il la réunissait autour de lui et il l'exerçait à faire de nombreux tours d'adresse, ainsi qu'il l'avait vu pratiquer autrefois aux comédiens nomades, aux saltimbanques qui venaient au château Orfano Orfana. Il sifflait un air et le singe valsait ou dansait. Si Zug faisait le rebêche, une caresse, une friandise, parfois même une correction le rendait docile et le tour était obtenu. On se souvient qu'autrefois Coco était le souffre-douleur de Roll, lequel, on s'en souvient aussi, pour arracher au malheureux Angora une suite graduée de sons, une gamme chromatique, lui posait sous les pattes des pincettes plus ou moins chaudes. Pour arriver au même résultat musical, le petit prince Chenvis n'avait qu'à presser plus ou moins fort avec le doigt les pattes du chat. Coco, par l'effet seul, d'une pénible réminiscence, chantait aussitôt toute la gamme, et fredonnait avec plaisir « Ah, vous dirai-je, maman ?» L'exécution n'était pas irréprochable, mais elle était suffisante. Les serins de Canaries n'étaient pas privilégiés. Le petit prince Chenvis avait taillé pour eux de petits morceaux de bois de pin en forme d'épée et de fusil, et il leur enseignait à s'attaquer, à se défendre, à mettre le feu à une petite pièce de canon, à faire semblant d'être mort. Il maniait fort adroitement ses armes attachées par un fil de soie à leurs pattes. Quand l'un d'eux tombait mortellement blessé, l'autre le traînait et le poussait dans une petite brouette à laquelle il s'attelait. S'ils mouraient tous les deux, c'est le singe qui les mettait dans une brouette plus forte et les emportait loin du champ de bataille. Quant à Tournebroche, intelligent comme tous ceux de son espèce, il connaissait déjà parfaitement la valeur des dominos et les principales cartes. Seulement, il confondait encore les piques avec les trèfles. Mais Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Néron en prit 3 pour la brûler et il n'y parvint pas complètement. Cela doit rendre indulgent pour les caniches, que Dieu, ne l'oublions pas, n'a pas absolument créé pour jouer aux dominos. Il faut beaucoup de soins minutieux, beaucoup d'efforts sans cesse renouvelés, beaucoup de peine pour dresser ainsi les bêtes. Mais le bon petit prince Chenvis, qui se voyait chargé de l'existence de sa sœur de la sienne, sur une terre étrangère, et qui sait pendant combien d'années, ne se décourageait pas. Olympe, la belle petite princesse, ne seconda d'abord que très difficilement son frère. Peu à peu, cependant, elle consentit à préparer aux animaux leur nourriture de chaque jour. À son insu, elle commença même à s'y attacher. Pendant que son frère s'occupait de les instruire, elle s'asseyait souvent sur un tronc d'arbre. Et elle écrivait à sa mère qu'il la pleurait et qu'elle pleurait à son bon père. Où était-il, ce bon père et cette excellente mère? Lorsque sa lettre était terminée, elle la plaçait près de son cœur avec les autres. Olympe, on le voit, corrigé par le malheur, devenait de jour en jour meilleur. Le soleil, la fatigue salutaire de la marche, l'air robuste de la campagne, les avaient déjà beaucoup brunis. Il n'en était que plus sain, plus beau et plus fort. C'est si bon pour l'âme et le corps, la liberté. Sous le beau ciel des confins de l'Italie, tantôt il côtoyait une rivière toute festonnée de cressons qui s'échevelait au bord des eaux. Tantôt il foulait la molle prairie semée des perles de la rosée. Il mangeait en marchant, il dormait sous un platane, il s'éveillait, le sourire de l'espoir sur les lèvres. Ils oubliaient, ils se souvenaient, ils priaient, et remontant sur le dos complaisant de philosophe, ils avançaient vers les Alpes. Ils se perdaient quelquefois, ils se retrouvaient souvent au même point. Ils étaient tantôt graves, tantôt tristes, mais bien gais aussi et toujours enfants. Une fois, ils ressentirent une douleur très vive. Auréol, l'élégant pigeon au cou nuancé, usant de sa liberté, éleva son vol si haut et l'étendit si loin qu'on ne le vit plus. On le perdit dans les profondeurs de l'espace. Tournebroche eut beau aboyer, Auréol resta caché derrière le rideau d'azur. Les deux enfants désolés s'arrêtèrent pour l'attendre. Mais il s'écoula une demi-heure, une heure, Auréol ne revint pas. Ils se remirent tristement en route sans lui. Mais au bonheur, à la station du souper, il le vit reparaître de loin, de bien loin. Il arriva tire-d'aile, roucoulant et frémissant. On l'embrassa, on le gronda bien fort, et tout fut dit. Mais le lendemain, même fête, heureusement même retour. Bref, Auréol continua ainsi à s'éloigner chaque jour de la caravane et à s'y rallier fidèlement avant la nuit.